Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Irina Brooke. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons Purple Fuckers de Chloé Delhomme. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir à Troyes dans l'Aube pour nous faire visiter la manufacture de vitrail Vincent Petit qui restaure actuellement les vitraux de Notre-Dame de Paris. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Sébastien Royer à la prise de son. Bonsoir Irina Brooke.
Bonsoir.
Vous allez présenter votre mise en scène de Lear, point d'exclamation, adaptation du Roi Lear.
C'est devenu très important, Lear, point d'interrogation.
Ouh là là, mais c'est un changement dont on ne me prévient pas. Alors qu'est-ce que vous voulez? Bon, il faut que je recommence toute la préparation de cette émission.
Non, c'est
point en fait, d'interrogation.
C'est intéressant.
C'est intéressant.
C'est la façon que bouge la cervelle créative. Les choses changent, on n'arrive pas à les fixer.
Bon, on y viendra tout à l'heure à se lire point d'interrogation, adaptation, oui. On l'aura compris, du Roi Lear de Shakespeare. Ce sera les 11, 17 et 18 mai au Théâtre Élisabéthain d'Ardelot, à Condette, dans le Pas-de-Calais. Dire aussi que vous êtes également l'une des trois artistes, avec Camille et Caroline Carlson, à répondre aux questions de l'historienne Audrey Fella dans le livre Portrait d'âme, paru au Seuil il y a quelques semaines, il y a un mois. En tout cas, c'est pour nous l'occasion de revenir avec vous sur des moments importants de votre travail, de votre parcours, d'essayer d'approcher vos méthodes de travail. Alors, fille d'un metteur en scène, Peter Brook, d'une comédienne, Natacha Parry, on peut se dire qu'il était tout naturel, en tant qu'enfant de la balle, de suivre la voie tracée par vos parents, mais vous avez expliqué qu'ils étaient l'un et l'autre très pris par leur métier, leur passion. Ça n'a pas toujours été facile pour votre frère Simon et pour vous. Vous avez été envoyé en pension en Angleterre à l'âge de 13 ans, où vous y découvrez des poètes romantiques comme John Donne, William Blake ou William Wordsworth. Ce sont pour vous des lectures importantes, Irina Brooke, ces lectures d'adolescente?
Oh oui, absolument. Mais il faut juste que je clarifie aussi que j'ai pas été envoyée comme dans un roman tragique d'enfance anglaise de cette littérature que j'adorais enfant, les sortes de livres victoriens où on envoyait les jeunes filles en pension. J'ai prié mes parents, mais jour et nuit, parce que j'étais pas une sorte de pauvre petite fille abandonnée. J'étais une fille terriblement têtue qui réussissait toujours à faire ce qu'elle voulait. Et j'ai dit, je veux aller à l'internat, je veux, parce que j'avais lu les livres de Enid Blyton et j'imaginais les trucs d'oreiller sur la tête et tout ça. Comment est-ce qu'on appelle
les batailles de pelochon.
Donc je rêvais absolument d'aller en internat et j'y suis allée et j'ai détesté chaque seconde. Pire,
ça vous apprendra.
5 ans de torture.
Voilà. Mais 5 ans de torture, mais donc aussi des lectures.
Des lectures. Seule chose qui me reste, parce qu'en fait, j'ai aucun souvenir de n'avoir rien appris. C'était une école en plus. Je ne sais plus parler français. Les deux sexes.
Mixte.
Et donc, c'était 5 ans d'histoire amoureuse, cœur brisé, allant dans la forêt, voulant mourir par terre dans la neige. Et en plus, les lectures romantiques qu'on faisait dans les cours de littérature anglaise. Mais c'est vrai que la littérature, c'est la seule chose qui m'est restée, c'était de découvrir Thomas Hardy, D.H. Lawrence et la poésie, et John Donne. J'étais complètement, vraiment, vraiment profondément touchée par ces auteurs anglais. Et la campagne, parce que c'était à la campagne anglaise, donc se promener dans les forêts, dans les champs, dans le cimetière de l'église, etc. Tragique, avec des livres de poésie, c'était... Voilà.
Donc après 5 ans de torture, de lecture, d'amours impossibles, oui. Irina Brew, vous quittez enfin ce pensionnat anglais, vous partez en vacances à New York avec votre père, et là encore, têtu comme vous êtes, vous décidez d'y rester, vous dites ça y est, c'est là que je vais devenir comédienne, et vous allez d'abord voir du côté de Stella Adler, et de l'acteur studio, mais on peut dire que ça ne vous convient pas vraiment, voire pas du tout, et que vous allez plutôt passer pas mal de temps dans les clubs et salles de concert. Ce n'est pas la plus mauvaise époque. Vous y rencontrerez notamment Iggy Pop. Plus tard, il signera la musique de votre spectacle adapté de Peer Gynt. On y reviendra. Mais bon, comédienne, vous allez l'être quand même pendant une quinzaine d'années, mais sans, dites-vous, tout à fait y trouver votre place, votre plaisir. Vous jouez très régulièrement, aussi beaucoup à la télé, au cinéma, aussi bien en France et beaucoup en Grande-Bretagne. 15 ans, c'est quand même long pour se dire c'est pas tout à fait là que je dois être.
Mais finalement, je suis quelqu'un de très rapide, mais très lente. Je me rends compte que j'ai fait des choses très lentement dans ma vie et que j'ai compris des choses très lentement. Donc, c'est étrange mélange d'impulsif et lent, ça fait pour une vie difficile, en fait, mais riche. Mais parce qu'avec les parents que j'avais, j'ai décidé à l'âge, pareil, têtu, 5 ans, que je voulais être actrice. Parce que une petite fille serait comme sa mère. C'était l'époque encore où on croyait à ces choses-là. Donc, actrice comme ma mère, obsédée par mes contemporaines, Jodie Foster, Brooke Shields. Je voulais vraiment tellement être dans un film. J'étais obsédée. Donc, j'ai gardé cette obsession toute l'enfance, et je me suis dit, le jour où je sors de l'école, j'irai même pas à l'université, je suis trop pressée, j'ai attendu déjà 14 ans, je vais directement sortir, on va me voir dans la rue, je serai dans un film et je serai une star. Mais c'est étrange de penser que la fille de Peter Brook serait dans un monde tellement autre que le sien. Mais c'est comme ça que j'ai vécu ma vie jusqu'à 18 ans. Donc après New York, c'était très difficile parce que ça s'est pas passé comme ça. J'ai fait des petites pièces off, où j'ai souffert de nouveau, torture, parce que j'étais pas naturellement actrice. Et donc c'était très difficile et je suis revenue en France, difficile aussi. Mais donc cette vie d'actrice n'était pas vraiment pour moi, mais ça m'a, comme c'était absolument, comme j'y ai rêvé depuis l'enfance, je ne pouvais pas imaginer lâcher ça. C'est comme si tout le monde connaît des choses comme ça, où on imagine que ça sera sa vie. On ne peut pas le lâcher facilement, parce qu'on se dit, il n'y a plus rien sinon. Donc ça m'a pris longtemps.
Et puis, c'est grâce, on pourrait le dire, à Richard Kalinski que votre vie change, puisque vous découvrez l'une de ses pièces. C'est un festival des écritures contemporaines à Louisville, aux États-Unis. Vous découvrez sa pièce Beast on the Moon, que vous allez donc mettre en scène, enfin, on est en 1995, à Londres, puis la version française en 98, avec Simon Abkarian et Corinne Jaber. Grand succès public, critique, la pièce recevra notamment 5 Molières. Entre-temps, on avait d'ailleurs quand même découvert en France aussi votre mise en scène de Tout est bien qui finit bien, de déjà William Shakespeare, avec, c'était une première, les comédiens de la Troupe du Soleil, qu'Ariane Mouchkine a accepté de prêter, je mets beaucoup de guillemets, une autre metteuse en scène qu'elle-même. Mais qu'est-ce qui vous a fait alors sentir, Irina Brew, que c'était le moment pour vous de passer à la mise en scène ?
Ben, c'était cette fameuse lenteur digestive qui a pris 15 ans. Et petit à petit, je sentais de plus en plus que je... Des fois, je jouais dans des petites pièces minables, dans des provinces, des théâtres provinciaux, vraiment comme Nina dans La Mouette, des choses absolument terribles. Et petit à petit, je commençais à regarder ces productions-là où je jouais avec un œil extérieur, me disant « Mais pourquoi il me met dans ces costumes ? Pourquoi est-ce qu'il fait cette scène comme ça ?» Et jusqu'à là, j'étais vraiment juste passive, totalement. Et vers la fin de la vingtaine, je commençais à voir de l'extérieur que c'était pas bien. Et ce départ était vraiment quelque chose, parce que jamais je m'étais mis en dehors pour critiquer, penser, réfléchir, juste je me jetais dedans et pas très bien. Et tout à coup, je voyais ce qui n'allait pas. Et j'ai passé un an et demi, je crois, au chômage en Angleterre, où je crois que je devais être peut-être dans une dépression. C'était terrible. Je passais ma journée au lit, dépressive. Et finalement, j'ai monté un tout petit spectacle moi-même dans un pub théâtre. Deux personnes et je jouais la fille. J'ai trouvé la metteur en scène. J'ai tout fait moi-même. Et ça m'a donné un certain courage de ne plus être dans ce rôle passif que je pensais être la mienne à vie. Et c'était vraiment à partir de là. Je pense que c'était le déclencheur. Dernier déclencheur, c'est que j'ai joué, j'ai oublié son nom, dans Lady Chatterley, dans le Lady Chatterley's Lover. Et c'était une minable petite production, où vraiment le pire. Et je devais courir nu à travers le plateau dans la sorte de scène d'orage avec les sortes de terribles fausses orages. Et j'étais une jeune fille quand même très pudique et timide. Et je pense que le fait de courir nu les matinées pour vieilles dames dans les provinces, ça m'a donné aussi deuxième élan de courage. Et à partir de là, quelque chose est arrivé, j'ai vu Bête sur la Lune et je me suis dit, j'imagine que ma copine Corinne Jabert serait bien dans un rôle que j'aurais pu jouer, mais je voulais le mettre en scène. Et ça s'est fait, mais littéralement du jour au lendemain.
Et là, le plaisir, il a été immédiat à cette nouvelle
immédiat,
place-là.
Immédiat, délirant. Mais vraiment, je m'en souviens encore comme si j'avais pris une sorte de drogue psychédélique. J'étais assise dans l'appartement de mes parents avec Corinne Jabert et Simon Abkarian et on a commencé à faire la lecture et j'étais dans la chaise et eux étaient debout devant moi et je me suis dit, ah, je suis dans la bonne place, la chaise avec des conseils que je sens sont utiles, où je sais exactement ce que je dois dire, je vois ce qu'il faut faire, je suis à ma place. Et quand j'étais debout devant la personne dans la chaise, je n'étais pas à ma place, donc c'était une semaine de magie.
Alors la magie, elle s'est poursuivie. Le plaisir du travail, c'est ce dont parlent beaucoup d'interprètes qui ont travaillé avec vous. Irina Brook, c'est ce qu'a dit Isabelle Carré, c'est ce qu'a dit Romane Boringer, ce qu'a dit aussi Simon Abkarian. Et c'est une méthode reconduite par lui, Simon Abkarian, qui est aussi devenu lui-même metteur en scène et auteur. On va l'écouter dans cette émission, en octobre 2020, interrogé ce jour-là par Lucille Gomeau.
J'ai forcément mon goût, mes manières de percevoir et de faire du théâtre, mais moi je crois au collectif, j'y crois. Je crois pas à employer quelqu'un au théâtre. Au théâtre, il y a un cheminement qui doit être fait et qui est au-delà des critères de l'argent. Il faut de l'argent parce que les saucisses, comme dirait mon pote qui est mon voisin, ça pousse pas dans les arbres. Mais c'est vrai que il y a autre chose qui s'entame, mais sur un long terme, parce que j'ai besoin, parce que nous avons besoin, comme il y a une grande appréhension quand on se rencontre sur un plateau, nous, les femmes, les hommes qui se rencontrent là-dessus, on a besoin de temps pour faire tomber les appréhensions. Et c'est un grand travail que de faire tomber les appréhensions qui consiste à gagner la confiance, c'est-à-dire à se donner la confiance, à se donner le champ de liberté, de créativité et de se dire, bon, je tente, je me trompe.
Cette méthode de travail, cette philosophie un peu que vient de décrire Simon Abkarian, qu'est-ce que vous y retrouvez de la vôtre, Irina Brook ?
Je pense que le mot confiance est très important. Je crois que venant de mon passé torturé d'actrice malheureuse, je voulais qu'une chose, c'est que les acteurs soient heureux. Donc je pense que j'ai... En fait, je crois que j'ai mis énormément de ma créativité, de toutes ces dernières années, disons 25 ans, 30 ans de mise en scène, dans l'envie de rendre les gens heureux. Maintenant, je me dis que peut-être c'est le moment d'essayer de faire ce que j'aimerais exprimer, ce qui est autre chose aussi, que je n'ai pas eu le temps encore de faire jusqu'à ces deux dernières années. Mais vraiment, à l'époque, jusqu'au Covid, disons, mon but dans les répétitions, c'était de mettre les gens immédiatement dans une telle confiance qu'ils pouvaient tout faire. Je crois toujours, comme un certain parent, que l'acteur peut littéralement tout faire, qu'il n'y a pas une chose qu'il ne pourrait pas faire si on lui donne la confiance et l'amour pour le faire.
Alors, vous vous êtes éloignée, Irina Brook, quelques années de l'Europe, en allant vous installer dans le Massachusetts, aux États-Unis. Alors, travaillant tout de même, ai-je lu, avec une compagnie shakespearienne qui était pas loin de chez vous, mais ce moment, plus proche de la nature aussi, il a affirmé votre sens et votre fibre écologiste. On va en reparler également, mais c'est un moment de votre vie qui vous était nécessaire, là encore, pour vous ressourcer, pour voir plus clairement quelles étaient vos priorités.
Je pense que c'est surtout un problème d'enfance, de toujours avoir été nomade et de jamais réussir. Et j'ai passé, c'est un peu une malédiction à mes enfants, de cette sensation de pas se sentir chez soi, vraiment nulle part, et d'avoir la bougeotte, et de jamais s'arrêter, de bouger. Donc j'ai eu ça toute mon enfance, et puis je l'ai redoublé adulte, et je pense que j'ai fait souffrir mes enfants encore plus que je l'ai eu moi-même, c'est très étrange. Je suis jamais restée nulle part plus que 2-3 ans, sauf cet internat en Angleterre, et le Théâtre National de Nice. Et il y a des parallèles. Ouais. Mais vraiment, mais 5 ans, pour moi, c'est du jamais vu. Normalement, tous les 2 ans, je bouge.
Et là, c'est ce moment-là, il était quand même... il vous a servi à vous ?
L'Amérique, c'était vraiment comme le rêve américain, parce que je venais de me séparer avec mon compagnon, le père des enfants, et... je sais pas, c'était un moment où je sentais que j'ai eu plusieurs stages tous les 5-6 ans où je sentais que j'en avais assez de ce que je faisais au théâtre, qu'il y avait besoin de renouveau, que ça devenait moins intéressant. Et c'était un de ces moments-là où il fallait tout changer. Et donc je suis partie, rêve américain. Et surtout, comme vous dites, la campagne américaine, je sens une sorte d'affinité profonde, réincarnatoire presque, où je sens ça, c'est les horizons qui me touchent vraiment, vraiment. Et je voulais pouvoir faire du théâtre et vivre à la campagne depuis toujours. Et en France, c'était difficile parce que je comprenais qu'à l'époque, en tout cas, les gens de théâtre français étaient toujours dans les grandes villes. Et pour moi, je ne voulais plus habiter dans les grandes villes depuis la naissance de Prosper, mon fils.
Mais malgré tout, donc, il y aura en effet la bougeotte, toujours, retour en France. En 2014, vous êtes choisi pour diriger le Théâtre National de Nice, avec pour ambition, évidemment, d'aller chercher de nouveaux publics, de faire un véritable théâtre populaire dans l'héritage de Jean Vilar. Jean Vilar, je vous propose d'écouter, c'était en 66, dans ses entretiens qu'il avait réalisés avec son amie Agnès Varda.
Je me rendais compte que, par rapport à tout ce qu'il y a à faire du point de vue de la culture populaire, les rapports entre ce qu'il faudrait faire, ce que nous avions fait, était infime. C'est que tout ce qui restait à faire était vraiment considérable. Et que quand tel ou tel comédien ne répétait pas, ou tel comédien n'apparaissait pas à tes spectacles, il fallait que, prenant un peu ou beaucoup sur sa vie privée, il se pointe dans tel ou tel local de banlieue, et là, dialogue avec le public, répondre aux questions qu'ils peuvent leur poser, ou au besoin, commencer par des choses pas simples à faire, enfin, le principe qui est simple, prendre quelques-uns de nos auteurs et lire. On sait toujours, quand on est un artiste, même si votre culture est réduite, on sait au moins faire une chose, lire tel ou tel texte du français, et nous n'avons pas cherché des auteurs très compliqués, ni vouloir faire lire le dernier roman paru, mais c'était aussi bien du Voltaire. Par exemple, le mot « guerre » ou le mot « paix » dans le dictionnaire philosophique de Voltaire. De lire quelques pages de Diderot, quelques pages de Montesquieu. Nous ne pouvions pas faire autre chose. Ce théâtre assez populaire n'était pas organisé pour pouvoir assumer une directive, une organisation de la culture populaire en France. Mais nous voulions au moins nous donner l'exemple en dehors et hors nos représentations théâtrales et nos répétitions, qui prenaient déjà beaucoup de notre temps. Et je pense que si tous les organismes comme le nôtre le faisaient, il y a bien des choses qui changeraient. Enfin, nous nous appelions populaires. Et s'en tenir simplement à des représentations dites populaires m'a toujours paru une chose importante, c'est la première chose à faire, bien sûr, mais pas suffisante.
Alors ces actions-là, Irina Brooke, celle que vient d'évoquer Jean Vilar, vous les avez mises en pratique au Théâtre National de Nice, en ne vous contentant pas donc de représentations, de répétitions ouvertes, en ne vous contentant pas non plus de faire venir de nouveaux spectateurs à vous, mais en allant, comme le dit Jean Vilar, il en parle plus loin, il raconte cet exemple de Gérard Philippe qui allait volontiers dans les usines à la rencontre des ouvriers pour aller effectivement soit dire des textes, soit simplement discuter avec eux, aller à l'extérieur, c'était important.
Oui, c'est étrange, c'est quelque chose qui m'a envahi en arrivant au Théâtre de Nice, mais avec une telle passion, comme si j'étais habitée par ces voix du passé, mais pas nécessairement à la bonne époque, finalement. J'étais de nouveau un peu hors du temps et de mon créneau, mais je suis arrivée sentant sur mes épaules la mission de changer le monde par le théâtre. Et en fait, c'était très difficile parce que j'avais tellement d'obstacles que je pense que j'aurais dû arriver 30 ans plus tôt, avec une force encore plus grande, dans un monde différent, pour pouvoir faire ce que j'aurais voulu faire. Mais je suis arrivée avec un rêve, y croyant, mais complètement de façon très naïve et très très obsessionnelle que j'étais là pour faire quelque chose de populaire pour les gens, et j'ai oublié même que j'étais là pour faire des créations pour moi et pour l'artiste et toutes les autres choses qu'on est supposé faire dans un CDN. Mais en fait, je me suis complètement concentrée sur le fait que je voulais réouvrir les portes à un théâtre pour tous. Donc on a fait des actions. Le meilleur, c'était vraiment un partenariat avec le Café Malongo. Et on allait dans l'usine à café. Et on a fait ça chaque année, commençant par une petite pièce pour... qu'est-ce que c'était? Je ne me souviens pas, c'était peut-être l'Odyssée pour enfants. Et là, la première fois qu'on est arrivé dans l'usine, les travailleurs de l'usine, c'était dans leur salle de travail, ils avaient mis des chaises en plastique et tout, et ils restaient collés au mur, ils avaient tellement peur de ce que ça pouvait de s'asseoir et voir même notre petite troupe joyeuse terrorisée. Je devais tirer littéralement, j'oublierai jamais, par la main, des gens, je disais, venez, venez, non, venez, c'est sympathique, et les mettre dans les sièges pour qu'ils regardent. Et à la fin, ils ont plutôt aimé, et on est revenu l'année d'après. L'année d'après, ils sont venus s'asseoir assez tranquillement sans qu'on les tire. Et au lieu de 50, ils étaient 200. Et la dernière année, on est allé... Et chaque fois, c'était après avec Shakespeare. On a fait la tempête de Shakespeare. Et la dernière fois, c'était Roméo et Juliette. Et le directeur Jean-Pierre m'a dit, j'espère que ça ne va pas être trop long. Ils ne peuvent pas tenir plus qu'une heure 10, 15. J'ai dit, oui, mais c'est notre premier filage. Ça risque d'être peut-être... je sais pas, 2 heures, on sait jamais. Il a dit non, mais c'est impossible, ils vont pas vraiment, ils ont pas l'habitude, ils vont pas vouloir. Eh ben, 1h55, la fin, tout le monde est en train de se tuer. Ils étaient, mais immobiles, scotchés, et à la fin, standing ovation de ce même public qui, 3 ans avant, était collé au mur. Et là, ils étaient 400, il y avait pas assez de chaises, tout le monde debout, et 2 heures de Shakespeare. Complètement conquis. Donc, je suis entièrement d'accord que c'est par les plus grands classiques qu'on peut passer.
Par l'excellence. Par toujours. L'excellence. Toujours. Mais beaucoup d'actions diverses. Le Festival Éco-Théâtral Réveillons-nous. Et puis des pièces aussi que vous avez commandées à des auteurs contemporains. Il y a eu Lampedusa Beach et puis Terre Noire. L'une sur la situation des migrants méditerranéens. L'autre sur l'Afrique du Sud, sur l'exploitation des terres par les multinationales. Ça aussi, c'était un changement important pour vous, Irina Imbruch, parce que des commandes à des auteurs contemporains, en l'occurrence Lina Prosa et Stefano Massini, c'était nouveau, là encore.
Mais j'étais de nouveau, je suis ou bien après mon temps ou avant. Et là, j'étais un peu avant parce que je suis devenue obsédée par le sujet écologique, environnemental, juste l'année où je suis arrivée à Nice. Et vraiment, j'avais les yeux ouverts sur des choses que je ne savais pas. J'étais tellement choquée par ce qui se passait dans ce monde-là, les OGM, la destruction de la planète. Donc j'ai tout découvert d'un coup et j'ai pris de nouveau sur moi qu'un théâtre devrait être un lieu où on partage ce qui se passe dans le monde, un miroir à toutes les choses les plus importantes du jour. Donc je me suis dit tout de suite... C'était la COP21 à l'époque. Et je pensais que le monde entier serait obsédé par le climat. Mais personne encore. Et tout le monde au théâtre me pensait que j'étais folle. Genre, qu'est-ce qu'à voir un CDN avec ce qui se passe dans le monde de l'écologie? Les gens étaient horrifiés. L'équipe ne comprenait pas que je veuille faire des choses sur l'environnement. Et donc, je voulais rassembler le plus de personnes possible et même faire une pièce de théâtre nouvelle écrite par Massini sur tous ces sujets pour alerter, éveiller. Mais en fait, le problème, c'est qu'à l'époque, c'était vraiment pas à la une. C'était la dernière page des journaux. Donc, les gens disaient oui, mais c'est un sujet, pas vraiment très important et qui nous concerne pas. Non, et le théâtre s'est rempli, mais c'est rempli par les gens qui savait. Donc pour moi, c'était
un
toujours...
Un public acquis déjà.
Acquis, c'était ça. C'est là où je commençais à perdre espoir parce que je me suis dit, je pensais que le théâtre était un outil, mais je pense qu'il y a des sortes de choses d'avoir été dans la petite enfance, dans les années 60, où je pensais qu'un sort de théâtre politique actif qui change le monde, etc., où on pouvait vraiment changer les idées d'un public. Et je me rendais compte qu'en fait, le public qui veut avoir les idées changées, c'est déjà le public acquis. Et pour les autres ne veulent pas venir voir une pièce sur l'environnement ou sur les réfugiés et tout ça. Donc, c'est là où je commençais à avoir une sorte de un peu une déception.
Mais c'est ce qui vous a poussé à quitter la direction du Théâtre de Nice?
Oui, parce que vraiment, j'étais... C'est pareil, je crois que c'est dans la caractéristique du bélier, d'être impulsif, très excité, et puis après très déçu, parce qu'on est le bébé du zodiaque et on croit que tout est possible. Donc moi, j'étais dans un enthousiasme tellement fatigant, débordant. Je croyais que je pouvais tout casser, tout changer, tout améliorer, tout faire. Et quand j'ai commencé, après 3 ans, à me rendre compte que je n'allais pas y arriver, et j'ai commencé à voir la réalité plutôt que mon sort de fantasme de changer le monde, c'est devenu très difficile, parce que sans cet espoir, je ne voyais pas de raison de diriger un théâtre.
Mais ça vous a permis de vivre plusieurs vies, il y en a encore d'autres qui arrivent, dont on va parler de cette relation si forte à William Shakespeare en parlant de votre actualité. Mais avant ça, on va quand même découvrir votre choix musical qui s'est porté sur On the Road Again, qui
vous va bien, donc,
Alanis Morissette et Willie Nelson, ça parle de vous finalement.
Vous avez tout compris.
on l'écoute.
On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends. It's a shame that the world keeps turning our way. To get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. And we're the best of friends. Keep turning our way, and our way is on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. And I can't wait to get on the road again.
On the Road Again, Alanis Morissette et Willie Nelson, une chanson que vous aimez tant, et Irina Brooke, que vous l'avez même utilisée dans un de vos spectacles.
Oui, alors, après avoir quitté Nice et les fameuses années Covid, j'ai eu vraiment une sorte de perte de foi dans le théâtre. Profonde, comme les gens qui perdent la religion, parce que pour moi, ma religion, c'était le théâtre. Donc, c'était un moment... Mais heureusement, c'est tombé quand rien ne se passait dans le monde. Donc, j'ai pu vraiment méditer là-dessus pendant plusieurs années. Et la première chose que j'ai recommencé à faire au théâtre, c'était un travail à Palerme, au Teatro Biondo, avec les élèves, qui était un projet qui s'appelait House of Us, qui est quelque chose que je continue à travailler, complètement différent. J'ai eu une sorte de résistance, je voulais plus voir des choses sur la scène, je voulais que ce soit dans les espaces déambulatoires, etc. Et c'était sur ma mère et sur la mort et sur le théâtre. Et j'avais des jeunes acteurs de l'école de théâtre qui faisaient des extraits de Tchekhov. Et ça a mené l'année d'après à ce même théâtre, me demandant de monter La Mouette, Ma Mouette, version Irina de Tchekhov. Et donc... dans ce Seagull Dreams, qui était un peu quand même une version décalée, très personnelle, et finalement parlais plus de la mort de mon père que de ma mère. J'avais cette chanson « On the road again » qui parle vraiment de ce que c'est la vie de bohème, la vie d'artiste et cette vie de repartir. Et j'étais tellement désenchantée par ce monde de tourner. J'ai tellement tourné avec les spectacles, j'étais dans tellement de petites villes à regarder mes spectacles seuls dans une salle, au fond de la salle, dans le trac. Et qu'il y a un moment où ça me dégoûtait presque dans ces fameuses années. Et le fait de repartir avec ces jeunes Italiens, les jeunes qui sortaient du conservatoire, cette directrice incroyable qui jouait Arkadina, et de les mettre tous ensemble. Et on chantait tous ensemble « On the road again » pour s'échauffer. C'était joué à la fin du spectacle. Ça m'a redonné la magie du théâtre et j'ai vu que jamais je pouvais m'en échapper. Mmh. C'était très étrange, mais impossible de m'en défaire.
Alors, de Palerme au Pas-de-Calais, ça fait quelques kilomètres, mais c'est aussi l'actualité parce que évidemment, donc Shakespeare, qui est une grande place dans votre parcours, Erin Abreu, que j'ai évoqué, Tout est bien qui finit bien en 98, il y a eu Juliette et Roméo en 2002, il y a eu En attendant le songe en 2007, 2010 c'était Tempête, cette fois c'était bien point d'exclamation, et puis il va y avoir donc Lire, point d'interrogation, un titre qui indique assez clairement aussi que vous avez pris des libertés avec ces pièces, vous n'êtes bien sûr pas la seule dans ce cas, mais pour vous... C'est une évidence que d'adapter, que de modifier.
Non, mais c'est une question très importante pour moi aujourd'hui, ce que vous me demandez, parce qu'en fait, je me rends compte que dans le passé, l'idée qu'ont les gens, que j'ai adapté, décalé, etc., juste parce que j'ai mis un point d'exclamation et réduit un peu la pièce, n'est pas vraiment vrai. J'ai toujours senti que je faisais la pièce absolument fidèlement, mais à un tel point de fidélité quasiment scolaire. C'est juste que ça a une apparence décalée parce que c'est moderne, c'est amusant, c'est contemporain et un peu plus court parce que j'enlève les parties ennuyeuses. Mais à part ça, c'est la pièce 100%. Donc chaque fois, je me dis d'après, mais en fait, non, c'est Roméo et Juliette, c'est pas Juliette et Roméo, c'est la tempête. Et c'est pour ça que ce point d'interrogation est très important. Parce qu'en fait, c'est ça l'intérêt de la vie d'artiste, c'est que j'avais l'impression les dernières années, juste, il y a un moment toujours, surtout dans notre monde de théâtre, et ça où on sent qu'on ne se renouvelle plus, on fait juste la même chose infiniment, et on s'ennuie de soi-même et de son propre travail. Et j'étais arrivée à ce point-là. Mmh. Et je sens que le fait d'être dans l'interrogation, plutôt que l'exclamation, est très symbolique, parce que ce lire vient après... C'est une nouvelle série de travail, c'est une vie créative, pour moi, complètement différente, post-Nice et post-Covid. Et ça a commencé avec House of Us, qui n'était même pas sur un plateau. Ça a suivi avec Seagull Dreams, qui était... La mouette, mais quand même très déconstruite, avec des sortes de montages TikTok de jeunesse et de la musique, etc. Mais à la fin, je me suis dit, mince, finalement, c'était vraiment la mouette de Tchekhov. J'ai pas encore réussi à m'en défaire. Je suis une bonne élève sage et scolaire et j'ai pas réussi encore à vraiment décaler. Et je pense que vraiment le grand déclic était peut-être maintenant où je reviens de Milan où j'ai fait la rondinée de Puccini, qui est une sorte de, un peu comme la Traviata, une histoire très classique de cette époque. Et j'ai trouvé que l'histoire vraiment ne me touchait pas énormément et j'ai rajouté des choses. Et à l'opéra, pour moi, l'opéra vraiment, c'est un endroit où je suis encore plus scolaire. Ça a l'air moderne et décalé, mais ça l'est pas du tout. Et tout ce qui m'intéresse, c'est de raconter l'histoire. Mmh. Je veux juste, et en fait au théâtre aussi, je veux juste bien raconter les histoires, et je pense que ça vient aussi de mon père, je sens que c'est la chose numéro un, et pas mettre de choses prétentieuses à moi. Et avec cette rondinée, j'ai mis des choses prétentieuses à moi, qui sont des choses qui me touchent beaucoup sur la femme, des choses en mouvement, en danse, des personnages qui n'étaient même pas dans l'histoire, qui est en fait très simple, et j'étais très fière de ça, parce que j'ai senti que j'inventais quelque chose que je n'ai jamais vraiment osé faire avant. Donc c'est pour ça qu'en revenant, je me suis dit, ça ne peut plus être lire, exclamation, un lire que comme tous les Shakespeare que j'ai fait, juste pour rendre accessible Shakespeare au plus grand nombre. Je me suis dit, ça y est, j'ai donné, J'ai fait ça pendant toute ma vie. Je suis pas le sort de agent de Shakespeare. Pourquoi est-ce que je dois continuer à le représenter et à me battre pour dire non, il est pas ennuyeux. Non, c'est l'auteur le plus populaire possible. Je l'ai fait, ça suffit. Maintenant, je veux essayer de raconter des choses à travers ma sensibilité et des choses qui m'importent. Inspiré par Shakespeare, mais beaucoup moins sage. Donc, lire Exclamation, qu'on avait travaillé, que tout le monde attend de voir, qui est juste un lire tel quel, est devenu, va devenir, parce qu'on commence lundi, l'histoire d'un vieil acteur qui perd la mémoire et qui se retrouve oubliant son texte au milieu d'une avant-première répétition de lire et finit dans une maison de retraite pour acteurs comédiens âgés et pense qu'il est le roi lire et que tous les gens qui l'entourent sont dans son lire. Et c'est le point de départ. Nous allons écrire et inventer cette pièce dans les 3 prochaines semaines. Donc, je ne sais pas. C'est pour ça le point d'interrogation. On ne sait pas où ça mène, mais pour moi, c'est vraiment excitant et c'est vraiment nouveau. Et je vais essayer de me défaire de Shakespeare. Je vais essayer de mettre la trame et d'avoir évidemment des hommages de textes par-ci, par-là. Mais je vais tout faire pour être moins scolaire et moins fidèle à mon grand Shakespeare.
On compte sur vous, Irina Bouc. Mais alors, ce lire, point d'interrogation, il va se jouer dans un lieu particulier, à Ardelot, au château d'Ardelot, à Condette, dans le Pas-de-Calais, un théâtre élisabétain, construit en inaugurant en 2016. C'est le premier théâtre élisabétain en France. Il a eu le prix The World Architecture News en 2018. Il est rond, forcément, il est tout en bois, il a une haute cage de bambou qui l'encercle, il peut accueillir 388 spectateurs. Sur ce type de théâtre et sur Shakespeare, une dernière voix à vous faire entendre ce soir, c'est celle d'un autre amateur de Shakespeare, comédien et metteur en scène, Thomas Joly, que je recevais dans cette émission en juin 2023, et je venais de lui faire écouter, c'est pour ça qu'il y fera référence dans cet extrait, une de mes émissions avec votre père, Peter Brook.
Je trouve que c'est déjà tellement difficile de faire ce qui est dit et raconté par Shakespeare et les autres auteurs ou autrices que je peux monter. Oui, la question des relectures, en fait, elles sont intéressantes et pour le coup, vraiment, j'en ai vu, moi, j'ai vu des relectures de Huberoy par Declan Donnellan que j'ai trouvé absolument génial, pertinent, bon, bref, plein. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, ok, bon, alors il y a ce vers impossible à dire, impossible à ressentir, cette action, cet enjeu qui est tellement énorme et c'est vrai que je suis plutôt à essayer de rester vraiment collé au texte. Après, là, ce que j'adore dans ce que dit Peter Brook, c'est que Shakespeare m'a donné aussi la clé de l'aveu. L'aveu entre la scène et la salle, l'aveu de la théâtralité avouée, je sais pas comment dire. Parce que oui, ça se jouait à ciel ouvert, les textes de Shakespeare, enfin, le théâtre élisabétain, comme ça, une espèce de théâtre de foire où les gens sont debout, où la vie n'est pas arrêtée. Et aujourd'hui, monter Shakespeare dans des théâtres, on parlait de Richard III, on a joué à l'Odéon, même dans d'autres théâtres, où les gens sont assis, dans le noir.
N'interviennent pas, n'apostrophent pas les acteurs, pas bizarrement. Tout.
Alors que je suis allé voir, moi, Henri V au Globe, je sais que c'est une reconstruction de ça. J'étais accoudé à la scène. Je veux dire, c'est quand même une espèce de porosité vraiment vivante et partagée que, pour le coup, peu importe la pièce que je monte, j'ai très envie de recréer cette grande communauté éphémère, le temps du spectacle.
Henri VI faisait ça.
Ouais, le temps permettait ça. Mais c'est vrai, la vie reprenait ses droits. Et moi, je milite pas, mais je trouve que la mortification du spectateur au fil des siècles, c'est une donnée qui peut-être a fait un peu de mal, justement, à la vie, au spectacle dit vivant.
Alors, ça c'était l'expérience de Thomas Joly, mais jouer à Ardelot, jouer dans cette configuration, dans le théâtre élisabétain, ça change quoi, au fond? Et en mise en scène, bien sûr, et pour les interprètes que vous allez diriger, Irina Bouc.
Mais la difficulté, c'est que je suis très tirée entre plusieurs choses, là, surtout avec cet extrait, parce que je suis à la base 100% comme lui, c'est-à-dire pas particulièrement pour les relectures. Pour moi, Shakespeare, c'était toujours l'accès direct de l'âme de l'acteur dans le cœur du public. Donc, tous ces théâtres Globe, moi, chaque fois que je vais au Globe de Londres, je pleure, je rentre, je pleure. Je peux pas m'empêcher quand je vois tous ces... Il y a toujours plein de jeunes qui sont pas forcés et qui vont de tous les pays du monde. Ils sont tous debout pendant 3 heures. Et dès que la chose commence et que je vois tout le monde debout, jeune, complètement engagé par Shakespeare, je pleure. Et donc, c'est évidemment ce qui me touche plus que tout, mais il y a un moment où il y a un sort de parcours personnel que je n'ai jamais osé poursuivre. Et je me dis, mince, là, quand même, il faut que je puisse le faire. Et je dirais que pour moi, ce qui me touche encore plus que Shakespeare et le théâtre direct, brut, entre Shakespeare et le public, c'est le théâtre. Et en fait, je crois que toutes les pièces que je fais depuis cette sorte de petit changement des dernières années, c'est sur le théâtre, et le théâtre dans le théâtre, et l'acteur. Et je crois que c'est évidemment lié à Shakespeare, mais c'est encore plus lié à ma famille, à avoir grandi dans le théâtre, et à un vrai amour, mais tellement profond, de ce que c'est le théâtre, de ce que c'est le comédien, que pour moi, l'idée d'un vieil acteur dans une maison de retraite. S'il y a temps pour une mini-anecdote, j'ai une amie qui est la fille d'une très grande actrice et très grand acteur anglais, et sa mère est maintenant dans une fameuse maison de retraite juste en dehors de Londres où vont tous les comédiens. Et elle m'a raconté deux, trois petites choses, et il y a un autre acteur très célèbre qui même a été dans un spectacle avec ma mère autrefois, qui est maintenant dans cette maison de retraite, et elle a dit que tous les jours, il va avec sa petite valise et il s'assoit à la réception disant « Mon agent va venir me chercher ». Alors ça, pour moi, c'est plus tragique que le roi Lear. Parce que c'est quelque chose que je connais et qui me touche, la tragédie de l'acteur vieillissant et sans travail. Ça, c'est presque insupportable. Donc, de pouvoir mélanger mon sentiment d'aujourd'hui là-dessus avec Lear, pour moi, j'ai besoin de relecture maintenant.
Mais ma question portait sur cet espace si particulier des théâtres élisabéthains. Comment est-ce que ça change ?
Ça porte aussi à ce problème de complication. Parce que, en fait, ce que je fais maintenant, avec Lear par exemple, pourrait être dans une grosse boîte noire, un théâtre très moderne, et très contemporain et sans ambiance extraordinaire des globes. Donc ça va être un peu pervers presque de mettre quelque chose comme ça de déconstruit dans un théâtre qui nécessite aucun décor. Je veux dire, dans le côté puritain des amateurs de globes, comme je l'ai toujours été, c'est comme les Bouffes du Nord. On devrait mettre aucun décor. On devrait juste avoir la parole pure et l'acteur pur. Et ça suffit. Et ça, j'ai toujours, toujours suivi ces règles. Et là, je vais mettre un énorme décor dans ce merveilleux globe qui ne nécessite rien. Réinventer Shakespeare. Mais je pense que le clash de tout ça est très, très, très intéressant et puissant et ne peut que faire des étincelles intéressantes, en tout cas. Pour moi, la proximité et l'immédiateté avec un public a toujours été numéro un. Donc je pense que le mélange des deux peut faire quelque chose de bien.
Bon, vous êtes très impatiente d'aller travailler. On est très impatients de découvrir ce Lear. Point d'interrogation. Ce sera les 11, 17 et 18 mai au Théâtre Élisabéthain d'Ardeloy à Condette dans le Pas-de-Calais. Je rappelle que vous êtes aussi interrogé longuement par Audrey Fella dans son livre « Portrait d'âme » paru au Seuil. Il y a un mois, il me reste à vous remercier, Irina Brook, d'avoir été notre invitée.
Déjà, merci.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
On avait quitté Chloé Delhomme avec Pauvre Folle lors de la rentrée littéraire de septembre dernier. Elle revient, plus grinçante que jamais, avec un nouveau roman, Fallers, publié dans la collection Point Féministe. Chloé Delhomme imagine des super-héroïnes capables de faire imploser les phallus importuns. L'héroïne du roman, Violette, interprète plusieurs chansons à l'humour noir avec son groupe Amiante et Cravana. L'autrice a habilement glissé ses quatre morceaux dans son deuxième album, Sentiment Négatif, qui vient de paraître sur le label Doki Doki. Sur fond de Minimal Wave produit par Patrick Bouvet et Eric Simonet, elle y éreinte les masculinités au prisme d'une typologie des comportements misogynes. On découvre notamment les Purple Fuckers, catégorie de faux alliés du féminisme, que Chloé Delhomme dépeint dans un titre dont la ligne de basse doit beaucoup à Joy Division. C'est notre son du jour.
Le voir.
C'était Purple Fuckers de Chloé Delhomme.
France Culture, le grand tour, le grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous donc ?
Bonsoir Arnaud, je suis toujours à Troyes, dans l'Aube, et ce soir nous sommes attendus à la manufacture Vincent Petit, lieu de restauration, entre autres, d'une partie des vitraux de Notre-Dame de Paris, qui seront exposés bientôt à la Cité du Vitrail à Troyes. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à la manufacture Vincent Petit.
Merci beaucoup.
Alors, je m'appelle Flavie Serrière Vincent Petit, je suis restauratrice de vitraux,
Et voilà, est dans votre atelier. On vient d'arriver dans votre atelier.
Et voilà, et là vous êtes dans un atelier donc de conservation, restauration de vitraux et de création contemporaine.
Super. On peut rentrer ?
Oui, venez, approchez. Donc là on est dans la salle de restauration et puis on va passer juste là devant la salle de montage en plomb où Léonce a commencé de ressertir en fait toute la baie, la première lancette, donc Sainte-Foy, de Valentine Rère. Donc là, vous voyez les panneaux déjà ressertis. Et là, Léonce qui est en train de terminer un panneau.
Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça veut dire ressertir ?
Alors, ressertir, ça va être remettre dans les plombs. Là, les vitraux, en fait, de 1937, donc de Valentine Rère, sont des morceaux de verre peints en grisaille et qui sont assemblés par des plombs. Donc, ils n'étaient pas cuits, on les a fait cuire. Et forcément, donc on les a dessertis pour les faire cuire. Ensuite, on les remet en plomb à l'identique, avec la même largeur de plomb que les panneaux de 1937. Donc, on les réassemble, en fait. On remet la mosaïque de verre en panneau.
Donc c'est un travail qui nécessite à la fois minutie, mais en même temps pas mal de force. Hein. J'ai l'impression qu'il faut...
Habileté, précision, et puis pour couper les plombs, il faut un peu de force. Donc après, on entre dans une autre pièce, où là, sur une grande table, en fait, on avait fait cette table de la taille d'une lancette de Notre-Dame.
Alors c'est une grande, grande table lumineuse. Hein,
de qui est... 7 mètres de long.
7 mètres de long.
Ouais, on va pouvoir passer là. Et donc là, je vous ai mis en partie le Saint-Marcel, donc qui est la deuxième lancette, et qui n'est pas exposée dans la première partie de l'exposition, donc qui n'est pas encore restaurée. Donc comme ça, c'était pour vous montrer ce vitrail avant restauration. Et puis dans l'autre pièce, vous avez vu, en fait, après restauration.
Alors là, qu'est-ce qui va lui arriver ? Quelles sont les étapes là, de restauration du vitrail ? Là, vous venez de le poser sur cette table lumineuse pour qu'on le voit, j'imagine, qu'on voit les motifs et les couleurs ?
Voilà, c'est ça. Donc déjà, il a subi plusieurs étapes. On l'a déjà vraiment étudié lorsqu'on a retiré de la tribune sud de Notre-Dame toutes les caisses qui étaient entreposées depuis 1939. On a ramené tout à l'atelier pour faire l'inventaire de ce qu'il y avait dans ces caisses. Ensuite, j'ai fait une étude préalable et on a fait des tests de nettoyage. On a vraiment étudié, voir quel panneau était cuit, pas cuit, la taille des plombs, toutes ces choses très matérielles. Pour pouvoir ensuite réfléchir à quelle sorte de restauration pourrait être envisagée, donc avec Marie-Hélène Didier, qui est la conservatrice générale des monuments historiques. Et là, on a fait tous les frottis. Donc, on a fait des frottis sur papier de soie, au graphite, et puis des frottis sur rhodoïde, pour vraiment prendre l'empreinte de ce que sont ces panneaux aujourd'hui. Pour pouvoir les dessertir, donc retirer les plombs qui ont été mis en 37, pour pouvoir faire cuire ces pièces qui sont en grisaille, mais qui n'ont pas été cuites à l'époque, puisque c'était provisoire. En fait, chaque verrier attendait vraiment la validation de la commission des monuments historiques avant de faire cuire. Et là, il n'y avait pas eu de validation, donc les vitraux n'ont pas été cuits. Donc, on est obligé de retirer. C'était un montage en plomb provisoire à l'époque, et conçu comme provisoire, pour ensuite être cuit, retouché éventuellement, cuit et ensuite ressorti de façon définitive.
Donc non seulement vous les restaurez, mais aussi vous leur donnez leur caractère pérenne finalement à ces vitraux ?
Oui, c'est ça, parce que si on ne fait rien en fait, on va perdre toute la couche picturale, donc toute la grisaille pas cuite. Donc soit on perd l'œuvre, soit on la stabilise par la cuisson, ce qui est vraiment une opération extrêmement rare en conservation restauration. Ça ne se fait jamais, mais là en fait dans ce cadre, ces vitraux ont un statut vraiment très particulier. Ils sont vraiment devenues des œuvres de musée. Et donc, de ce fait, on est obligé d'avoir une restauration très atypique et singulière.
Il représente quoi, ce vitrail? J'ai du mal à le distinguer, là. Je vois une
Alors,
figure,
là, il n'est pas encore nettoyé. Ouais. Donc, là, c'est Saint Martial. Donc, si vous approchez, j'ai accroché au mur, en fait.
Voilà. Je distinguais le visage, mais pas...
Donc là, en fait, on a une baie à deux lancettes. Donc, vous avez dans les deux lancettes, donc c'est ces élancements verticaux d'une baie. On a dans la première lancette Sainte-Foy et dans la deuxième Saint-Martial. Donc là, moi, je vous ai mis Saint-Martial sur la table. Et au-dessus, on a un verset du credo. Donc en fait, chaque baie de Notre-Dame était conçue comme ça, deux saints français et un verset du credo. Donc là, on voit qu'il y a eu des effacements progressifs, puisqu'elles ont été posées plusieurs années. Elles ont été conçues en 37 pour le pavillon pontifical de l'exposition universelle. Donc, elles ont été exposées déjà, ensuite posées dans Notre-Dame jusqu'en 39 ou 41. Alors, tout le monde n'est pas d'accord, mais certainement 41. Donc, on a plusieurs années, en fait, de pluie, d'eau de condensation qui ont ruisselé, en fait, sur ces baies, qui ont donc altéré la couche picturale. Et ensuite, ils ont été stockés quand même un certain nombre d'années, donc jusqu'à il y a 2 ans, dans les tribunes de Notre-Dame. Elles ont subi l'incendie. Ça n'a pas été incendié, mais elles ont participé quand même à l'ambiance générale de poussière et de suie. Et ensuite, là, elles arrivent vraiment à la dernière étape où on va les restaurer. Donc on va redonner à lire comme elles pouvaient être... Enfin, à une étape aussi qui n'a jamais existé non plus.
Parce qu'en fait, une fois qu'elles vont être donc cuites, restaurées, évidemment, le vitrail n'aura plus du tout le même aspect que celui qu'on a là. Il va être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus coloré.
Oui, c'est ça. Parce que là, il y a toute la couche de suie et de poussière. Mmh. Alors, ils ont été décontaminés, hein, mais il reste quand même beaucoup de salissure. Et donc après, je vais aller chercher une bordure, si vous voulez, qui est déjà cuite et montée en plomb. Et vous verrez tout de suite la différence. Donc là, on a un morceau de la robe de Sainte-Foy qui est restaurée, qui est cuite et ressertie en plomb. Et donc, on voit là des couleurs beaucoup plus vives. Mmh. C'est ce que reprochaient certains. C'est ces couleurs très acidulées et avec des tons inappropriés au vitraux ancien.
Enfin, acidulé, c'est vraiment le terme. Hein.
On est très acide. Hein.
On est sur du vert... prairie, du jaune, du rouge, du bleu, il y a du rose. C'est presque pop vu comme ça.
Oui, c'est ça. Et là, en fait, la baie de Valentine Rère était côté sud. Donc, on avait demandé aux verriers de faire plutôt des baies couleur chaude, jaune, rouge au sud et du bleu au nord. Et Valentine Rère était juste après Barillet. Et c'est le deuxième verset du credo, en fait. C'est vraiment une baie pour le côté sud. Donc, ça devait être plus qu'étincelant.
Donc dans cet atelier, il y a tous ces corps de métier-là, c'est-à-dire il y a des gens qui restaurent, des gens qui créent, des gens qui permettent aux œuvres d'être exposées.
Oui, c'est ça. Alors maintenant, nous sommes 30, ce qui est vraiment
un gros atelier.
Oui, c'est terrifiant, mais donc avec des spécialités totalement différentes, allant du CAP de métallerie, parce qu'un vitrail, ça ne peut pas vivre sans son support. Donc, il y a tout ce côté structure qui est important. Il y a le côté échafaudage, parce qu'il faut aller chercher le vitrail tout en haut. Donc, on a aussi une partie échafaudage, une partie donc métallerie. Et puis, on a des restaurateurs, des assistants de restauration. On a maintenant un docteur en physique qui nous aide aussi pour toutes les parties extrêmement scientifiques. Donc, la restauration, c'est aussi bien des parties très scientifiques, des parties beaucoup plus artisanales. Donc, comme vous avez vu Léonce, là, c'est vraiment plus un métier de vitrailliste, de couper, sertir le verre. Nous, on est plutôt, avec mes consoeurs de la salle d'à côté, conservateurs-restaurateurs de vitraux. Donc, on a un master de restauration. Donc, vous voyez, tous les niveaux s'imbriquent et on travaille tous ensemble pour la transmission du patrimoine vitrail. Pour moi, la conservation, restauration, l'observation de l'ancien nourrit ma pratique contemporaine. Et c'est vraiment important. Et en vitrail, la lacune, en fait, est forcément un vide éblouissant. Et ce vide doit être comblé pour retrouver la lecture de l'œuvre ancienne. Et quand le vide est trop grand, Alors là, on peut faire de la création contemporaine qui accompagne les vitraux anciens pour leur redonner, en fait, une lecture globale. Donc, restauration et création, vu par cet angle de la création contemporaine d'accompagnement, c'est extrêmement lié. Et c'est vraiment l'axe que l'on a choisi ici.
Suite du Grand Tour, lundi, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Lundi, direction Venise pour découvrir le pavillon français de la 60e édition de la Biennale d'Art de Venise.
Merci Marie et à lundi. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Ruberti.